inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 22.
À quoi penses-tu, poilu ?
Printemps 1917, retour sur le front, veillée d'armes. On est monté en première ligne, on se terre dans son trou et l'on attend le signal de l'attaque. Dans la Marne, Gabriel Degois, sergent sapeur au 60e régiment d'infanterie, raconte qu'avant l'assaut, c'est à chaque fois la même impression.
Dimanche 15 avril 1917. Le ciel s'assombrit un peu. Il faut souhaiter qu'il ne pleuve pas demain. Nous avons toujours des pertes. Chaque jour, un ou deux tués et quelques blessés. Le soir, à 8 heures, nous montons en ligne. Pas de bruit, pas un mot. Voilà la consigne. Comme des ombres fuyantes, nous allons, courbés, nous baissant dans le marais, démasqués par la lueur des fusées éclairantes. À minuit, nous allons couper les fils de fer en première ligne. Minute longue, angoissante. Ensuite, c'est la veillée des batailles dans mon petit trou, tressaillant, sursautant, quand les obus ennemis tombent à proximité.
Puis vient le moment du danger, de la peur, de la mort qui rôde. À quoi pense le poilu alors ? Le 13 juillet 1916, la veille de la fête nationale, André Séjournant est de corvée de ravitaillement.
Le jour-là, c'était le ravitaillement du 14. Il y avait du surplus et je me trouvais un peu plus chargé. J'avais 7 bidons de pinard, 9 bouteilles de champagne dans une toile de tente, les cigares, je les avais mis dans ma poche avec les sardines, le rata et la bidoche. Dans les bouteillons, les boules de pain dans une toile de tente. Un autre prit le pain et les bouteillons et moi tout le reste. En passant au pays, on reçut quelques obus à gaz. Il a fallu mettre le masque. Et c'était bien gênant, car la nuit, on voyait encore moins pour marcher. J'avais peur de tomber et de casser mes bouteilles de champagne. Aussitôt éloigné du gaz, on remit le masque dans la boîte et en vitesse on rentrait à la tranchée, car les Boches envoyaient souvent des rafales d'obus. En arrivant près de la tranchée, les Boches firent une fausse attaque à la grenade. Ah, ça tombait tout près. Les éclats sifflaient fort, j'étais couché à plat ventre, et je pensais à mes bouteilles qui n'étaient pas bues. J'avais peur qu'une grenade me les casse. Mon voisin, qui avait le pain, se trouva blessé au bras. Moi, je restais encore quelques instants, puis tout se calma. Je sautai dans la tranchée, fier d'avoir tout rapporté aux copains.
Décidément, la peur et la souffrance donnent des idées baroques à André Séjournant. À quoi pense-t-il une semaine plus tard, quand il est blessé pour de bon lors de l'attaque du 20 juillet 1916.
On s'était vite mis dans des gros trous d'obus. On s'apprêtait à les relier par une tranchée quand nous vîmes venir sur la crête en face une compagnie de Boches qui voulait nous contre-attaquer. Chacun prit aussitôt son fusil, ajusta son Boche et en peu de temps, ceux qui n'étaient pas tués retournaient en vitesse d'où ils venaient. Deux gros 210 éclatait autour de nous. Un gros venait de tomber tout près. Je croyais qu'il était tombé sur les camarades de gauche. Je levai la tête pour voir. Et au même instant, j'étais frappé d'un éclat d'obus à la tête, au-dessus du nez, entre les deux yeux. Ah, le sang coulait fort. Et les trois copains qui étaient avec moi étaient aussi malades que moi. Mais j'ai pas perdu connaissance. J'ai pris mon couteau, coupé mon paquet de pansements que je me suis appliqué aussitôt sur la plaie, et les copains ont bandé le reste. J'avais eu de la chance. L'éclat avait coupé le bout de mon casque, fracturé l'os et glissé sur la paupière droite. J'avais un œil de boucher par le pansement. Mais je voyais assez d'un œil. Je partis aussitôt à travers la plaine, sans m'occuper des obus qui tombaient. Un qui avait les deux jambes traversées par une balle et qui ne savait plus le chemin de l'arrière me suivit et courait comme moi dans les endroits dangereux. En passant au-dessus des macabées Boches, j'avais eu l'idée de leur prendre un bidon avec le quart, comme souvenir. On arriva à l'ambulance de la division de Maricourt. Le major prit mon nom, mon adresse, regarda ma plaie, me fit mon pansement après m'avoir badigeonné de teinture d'iode. 20 minutes après, je partais à Cusy, à l'ambulance d'évacuation.